Les papotages des petites voix de la loi.
Bonjour à toutes et à tous.
Bienvenue dans notre émission spéciale Les petites voix of the world, dans laquelle nous allons vous faire découvrir un voyage extraordinaire autour du monde.
Les aventuriers derrière le micro viennent de la classe de CM2 de l'école Grand Pré de Louvigné en Mayenne.
Notre émission va commencer par une chronique, puis un reportage, ensuite une interview et pour terminer, notre billet d'humeur.
On va vous faire voyager. Vous êtes prêts? Allez, on y va!
On commence dès à présent avec Mathéo, Alia, Thaïs, Ethan et Léa qui vont nous partager leur bon petit plat du monde. Préparez-vous à avoir l'eau à la bouche.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans notre chronique, on va voyager avec nos pépis et découvrir des plats typiques de différents pays. On commence par le Maroc. Au Maroc, le plat traditionnel, roulement de tambour. Le couscous.
Mais c'est quoi le couscous?
On dirait un simple repas, mais non. Le couscous a été inventé entre le 9e et le 11e siècle. Son origine est berbère.
Mais alors, entre le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, qui l'a inventé?
Personne. À l'époque, ces pays n'existaient pas encore. Le couscous est donc bien plus ancien que ça. Revenons. Mais il est composé de quoi?
Pour faire un délicieux couscous, il faut de la viande ou du poisson, des pois chiches, des légumes comme les navets, carottes, courgettes, oignons et bien sûr de la semoule.
On peut le manger chaud ou froid, selon les goûts.
Le couscous a aussi plusieurs noms. Sescu, quescu, quesecu, couski, en fonction des régions.
Moi, je préfère dire simplement couscous.
La légende dit que le meilleur couscous est celui du Maroc. Et en 2020, le championnat du monde de couscous a eu lieu en Sicile. Direction le Pérou, en Amérique du Sud. Le plat traditionnel du Pérou s'appelle le rocoto relleno. Il a été créé à l'époque pré-Inca entre le 9e et le 13e siècle.
C'est un plat épicé, préparé avec du piment, de la viande hachée, de l'huile d'olive, des petits pois, du fromage frais. Le tout est saisonné avec du cumin et du persil haché. Et on le mange chaud.
Maintenant, cap sur l'Australie. Le plat australien s'appelle la tourte à la viande. Selon Janet Clark, historienne culinaire à Brisbane, la tourte a été inventée en Europe au Moyen-Âge pour conserver la viande. Certaines sources disent même que la tourte existait dès l'Antiquité.
L'Australie a repris ce plat et en a fait son plat traditionnel.
Mais comment prépare-t-on une bonne tourte à la viande?
Pour cela, il faut de la viande de bœuf hachée, de la purée de pommes de terre et une sauce épicée.
Miam, ça a l'air délicieux.
Et pour finir, l'Espagne. Alia va vous présenter un repas typique espagnol.
Oui, je vais vous mettre l'eau à la bouche avec la gastronomie ibérique. Pour l'entrée, le gazpacho andalou. C'est une soupe froide à base de tomates, concombres, poivrons, ail et de l'huile d'olive.
Mais c'est idéal en quelle saison?
En été, bien sûr. Pour le plat principal, c'est la paella. Elle est composée de riz et de fruits de mer comme les moules ou les poulpes.
Mais si on est allergique aux fruits de mer?
Pas de problème, on peut la préparer avec du poulet ou des légumes, selon la version. La paella est originaire de Valence. Pour le dessert, c'est le flan espagnol. Il est composé de crème fouettée et de caramel.
Miam miam, ça a l'air succulent!
Bon appétit à tous et à toutes. Et voilà, notre tour du monde des plats typiques est terminé. On espère que ça va vous donner faim.
Ça m'a donné faim tout ça.
Nous allons maintenant écouter Maxence, Timéo, Baptiste, Zach et Antoine pour leur reportage sur le trophée Jules Verne.
Thank you. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler du célèbre trophée Jules Verne.
D'abord, une question. En quelle année est né le trophée Jules Verne ?
Le trophée Jules Verne a été créé en 1990.
C'est un défi nautique très impressionnant. Il récompense l'équipage qui réalise le tour du monde à la voile le plus rapidement possible. Mais attention, ce n'est pas si simple.
Les marins doivent partir en équipage, sans escale, sans assistance, et parcourir une distance de 21 760 milles marins, soit environ 40 300 km.
On dit que la distance est orthodromique.
Mais qu'est-ce que ça veut dire, orthodromique ?
Orthodromique, c'est un mot un petit peu compliqué. La route la plus courte possible à la surface du globe entre deux points.
Le trophée Jules Verne a été créé en octobre 1990 par deux grands navigateurs français, Florence Artaud et Titouan Lamazou.
C'est très français comme trophée ? Thomas Coville va nous le dire.
En ce moment, c'est très français, mais ça n'a pas été que français. Il y a eu Peter Blake avec ENSA qui a détenu ce record.
On a eu des super messages de l'étranger et finalement, effectivement, on se rend compte aussi que ça a une résonance mondiale, des Néo-Zélandais, des Australiens, des Américains.
Depuis sa création, il y a eu 33 tentatives.
Mais seulement 9 ont réussi à remporter le trophée. Parlons maintenant d'un équipage très spécial.
Un équipage 100% féminin appelé The Famous Project.
Sa capitaine est la navigatrice française Alexia Barrier. Mais pourquoi un nom anglais ?
Tout simplement parce que la majorité de l'équipage est anglophone.
Cet équipage a bouclé le tour du monde en 57 jours, 21 heures et 20 minutes.
C'est un exploit incroyable, car c'est la première fois qu'un équipage composé uniquement de femmes termine le trophée Jules Verne.
On écoute à nouveau Thomas Coville parlant de The Famous Project.
Ça des marins, elles ont fait un sublime et super tour du monde. Elles n'avaient pas eu beaucoup de temps, elles n'ont pas eu beaucoup de moyens pour préparer leur bateau. Je pense que c'est vraiment la première pierre. C'est vrai qu'elles avaient cette ambition d'être uniquement avec des femmes, mais je ne pense pas que ce soit le sujet même premier de leur projet. C'est d'ouvrir des portes et de faire en sorte qu'il puisse y avoir d'autres femmes à avoir envie de venir.
Mais participer à cette course coûte très cher. Il faut des sponsors pour financer le bateau et le matériel.
L'équipage a été soutenu par des partenaires, notamment la Banque CIC. Pendant la course, elles ont rencontré de nombreuses difficultés.
Une avarie de hook, un élément clé pour remonter les voiles. Des moments de doute.
La grande voile déchirée.
Et même une grosse tempête dans l'océan Atlantique dans les derniers jours. Elles ont dû attendre près de 24 heures avant de pouvoir continuer en toute sécurité.
Et le record alors ?
Le record actuel est de 40 jours, 10 heures et 50 minutes. Il a été battu par le trimaran Sodebo Ultime 3, dirigé par Thomas Coville.
Mais pourquoi s'appelle-t-il Ultime 3 ?
Parce que c'était la troisième tentative de ce bateau et les deux premières avaient échoué.
Alors, on est les plus rapides autour de la planète à la voile. Voilà, c'est un absolu. C'est, pour moi, c'est ce que recherche chaque athlète, mais peut-être aussi un peu tout le monde. On cherche un jour ou l'autre à savoir la magie de l'homme d'être unique et singulier. Et qu'est-ce qu'on peut trouver comme moyen pour un athlète de mieux que de dire, voilà, nous, tous les sept, on est unique et singulier. Avant nous, il y avait un meilleur temps.
Les deux équipages ont utilisé des bateaux appelés trimarans, c'est-à-dire des voiliers à trois coques.
Ces bateaux sont très rapides et spécialement conçus pour les grandes courses au large.
Voilà, c'est notre reportage sur le trophée Jules Verne.
Un défi incroyable qui demande du courage, de la solidarité et beaucoup de détermination.
Ça fait rêver, mais il faut un vrai grain de folie pour une telle aventure.
Nous enchaînons avec une interview sur Nico Mathieu, réalisée par Kimi, Loris, Nora, Raphaël et Cheyenne.
Bonjour à tous, nous avons eu la chance d'interroger Nico Mathieu pour une interview. C'est un aventurier français et aussi youtubeur.
Eh ben bonjour à la classe et aux élèves de CM2 de Louvigné. Du coup, je m'appelle Nicolas Mathieu, je suis un aventurier mais aussi un youtubeur, donc j'essaye de vivre avec mon temps. 32 ans bientôt, je crois, et voilà, je suis originaire de Chambéry. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire ? Bah, pour l'instant, tout va bien.
Nous avons d'abord voulu savoir à quel âge il a commencé à vivre des aventures.
Moi, de mon côté, j'ai commencé du coup à faire des aventures dès mes 18 ans, avec pas mal de tours d'Europe pour découvrir les architectures de pas mal de capitales, parce qu'à la base, je viens du sport qui s'appelle le parkour. Donc, j'ai pratiqué beaucoup cette discipline et ce sport en rencontrant beaucoup de groupes qui en faisaient aussi dans différentes capitales d'Europe. Et petit à petit, ça s'est rapproché beaucoup plus de la nature et j'ai vraiment commencé à partir de 24-25 ans à me lancer à 100% dans l'aventure YouTube et dans l'aventure outdoor. Faire du sport dehors, quoi.
Nous lui avons aussi demandé pour quelle raison il a choisi la vie d'aventurier.
Et de ce qui est du choix de devenir aventurier, c'est un peu le rêve de tout le monde de pouvoir être curieux, apprendre des choses, explorer la nature, la découvrir et essayer de la comprendre le plus possible, tout en s'émerveillant devant des magnifiques endroits que la planète a à nous offrir. Mais le plus compliqué était de trouver un moyen de pouvoir en vivre réellement. Donc la vidéo est venue tout naturellement vers moi parce que j'avais pas mal l'habitude d'en faire. Et donc ça a été un choix rêvé depuis presque toujours, mais qui s'est concrétisé à partir de 2019.
Nous l'avons ensuite interrogé sur ce qu'il a ressenti lors de son tout premier voyage.
Alors moi, je rêverais pas à me souvenir de ce que j'ai ressenti lors de mon tout premier voyage parce que j'ai un peu toujours voyagé, j'ai eu beaucoup de chance. Moi, j'ai des parents qui m'ont fait voyager en allant par exemple en voiture en Croatie ou en Grèce. On a toujours essayé de se débrouiller en famille pour découvrir des pays ensemble. Et par contre, le premier voyage en solitaire, je crois que c'était le GR20, donc en France, en Corse, qui a été fait. Donc c'était la plus grande traversée d'Europe, que j'ai refait plus tard avec un autre YouTuber qui s'appelle InoxTag. Mais depuis, le premier ressenti, c'est que il est possible de faire tout ce qu'on a envie de faire en termes de voyage si on le prépare bien et si on est prêt à y aller tout seul.
Nous lui avons demandé quelle expérience a été la plus marquante.
Pour moi, l'expérience la plus marquante, c'est vraiment la découverte de la forêt amazonienne, donc dans un département français qui s'appelle donc d'outre-mer qui s'appelle la Guyane. Pour moi, ça a été une vraie révélation du terrain de jeu infini que peut proposer cette forêt. Beaucoup de gens en ont peur via les mygales, via les serpents, via pas mal de choses, mais se rendent pas compte que nous avons aussi des mygales en France hexagonale, que nous avons aussi des serpents et des vipères dans nos montagnes et dans nos prairies, et même des couleuvres, etc. C'est juste qu'on a perdu l'habitude de les voir parce que l'humain s'est beaucoup plus installé de partout. Et elles se cachent un peu plus, mais il y en a un petit peu plus en Amazonie, je ne vais pas vous mentir, mais il n'y en a pas forcément beaucoup plus. Elles ne sont pas forcément beaucoup plus dangereuses. Donc moi, mon vrai émerveillement s'est créé là-bas.
Après, nous l'avons questionné sur la nourriture qu'il mange le plus souvent pendant ses voyages.
Alors moi, les nourritures que je mange le plus souvent en aventure, on va dire que c'est des lyophilisés pommes de terre, viande hachée, qui sont incroyables, que j'aime particulièrement, que je pourrais manger toute l'année. Mais par contre, dès que je peux, j'essaye de me nourrir de ce qu'a la nature à m'offrir. Donc tout ce qui est plantes, fruits que je connais, bien évidemment, ne jamais manger de plantes et de fruits qu'on ne connaît pas. C'est le plus dangereux, limite. Et du poisson, parce que je suis un fin pêcheur, finalement. Je me suis découvert ce talent il y a 5-6 ans. Mais j'essaye de faire un mix de tout et de pouvoir rester cohérent avec tout ça.
Nous nous sommes intéressés aux moyens de transport insolites qu'il a déjà utilisés.
Alors le moyen de transport le plus insolite que j'ai utilisé, je pense qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais je me suis déjà baladé dans des mines en Ukraine, donc des mines de sel à moins 300 mètres avec des wagons et des rails. Un peu comme Indiana Jones, il y en a qui ont vu les vieux films. Même moi, c'était vieux pour moi, donc pour vous, je ne l'imagine pas. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Il y a eu des déplacements en bateau, en voilier, J'arriverai même pas à me souvenir de tous les déplacements bizarres, mais il y en a eu. Mais peut-être que mon préféré, c'est en parapente, parce que j'adore le parapente.
Nous lui avons demandé s'il a déjà rencontré des peuples avec une culture différente de la sienne.
En ce qui concerne les peuples, bien sûr, j'ai pu rencontrer des Wayana, donc c'est des Français, mais qui viennent de la culture amérindienne de Guyane. Il y a aussi les Teco et pas mal les Wayampi dans des villages comme Kamopi, qui est Trois Sceaux, toujours en Guyane. Il y a eu aussi à Madagascar pas mal de personnes que j'ai croisées dans des villages perdus, mais pas tant perdus pour eux, évidemment, des fleuves et dans la région du Makai, qui était magnifique. Mais c'est vrai que principalement, mes aventures, je rencontre pas grand monde. Mais en tout cas, chaque personne que j'ai rencontrée, même la communauté d'Alejandro-Selkirk sur l'île d'Alejandro-Selkirk au milieu du Pacifique, donc c'est une petite communauté de 50 à 60 personnes, ça restera des gens que j'ai toujours en contact grâce justement au numérique maintenant avec les réseaux sociaux et tout, qui ne perdent pas leur culture mais qui utilisent les bons moyens pour la partager et la faire connaître. Donc oui, j'ai rencontré du monde et ils sont hyper intéressants, mais comme ça reste des humains comme tout le monde et il faut s'y intéresser parce qu'ils ont un mode de vie qui est très intéressant.
Nous avons terminé en lui demandant quel projet d'aventure il prépare pour la suite.
Et actuellement, ma prochaine aventure est un départ pour la Thaïlande et découvrir un énorme écosystème par là-bas. Et je pars dans 2 heures parce que je suis à l'aéroport. Donc je vous fais ces petits messages d'ici. Donc hâte de partager tout ça sur YouTube. Et j'espère que vous écoutez bien votre professeur. Parce que c'est super cool qu'il m'a envoyé toutes ces questions et que vous ayez travaillé là-dessus. Et j'espère que plus tard, vous aurez la chance et l'envie d'explorer le monde à votre façon. Voilà, allez, à la prochaine.
Merci beaucoup à lui d'avoir répondu à nos questions. Vous pouvez retrouver Nico Mathieu sur sa chaîne YouTube pour suivre toutes ses aventures. Quel aventurier! Ça donne vraiment envie de partir explorer le monde.
C'est maintenant au tour de Casey, Paolo, Lucas et Sacha qui vont vous faire leur billet d'humeur sur le tour du monde en 80 jours.
Bonjour! Qui n'a pas rêvé une fois de réaliser le tour du monde en 80 jours?
Moi, j'ai trop envie de voyager!
C'est ce que les personnages principaux de Jules Verne, Phileas Fogg, Jean Passepartout, le commissaire de police, Mrs. Aouda ont fait.
Moi, j'aimerais être Passepartout parce qu'il se faufile dans n'importe quel endroit.
Et surtout pas Phileas Fogg.
Oh non, il est trop maniaque et trop propre dans son travail.
Et le policier, comment s'appelle-t-il?
Il se nomme Fix. C'est mon personnage préféré. Il croit que Phileas Fogg a braqué une banque. Donc, il lui met des bâtons dans les roues. C'est trop drôle!
Et moi, c'est Mrs. Aouda. C'est le seul personnage féminin. Elle accompagne les deux héros dans leur aventure malgré leur caractère de cochon.
Merci Jules Verne pour ce roman d'aventure publié en 1872 qui nous emmène à la découverte de nombreux pays et moyens de transport à travers la planète.
Ça fera bientôt 2 siècles qu'est né cet auteur.
J'imagine notre écrivain aventurier comme son personnage principal.
Moi, j'aimerais bien aussi parcourir l'Inde à 2 éléphants.
Et si on traverserait l'Espagne en train?
Et le Brésil à cheval?
On pourrait traverser les mers et les océans en paquebot de luxe.
On irait au pôle Nord en sous-marin. On se déplacerait sur la neige en luge. Concentrons-nous sur le voyage de Phileas Fogg.
J'aime bien les personnages parce qu'ils partent à l'aventure et ils sont courageux.
Le tour du monde en 80 jours est palpitant, surprenant. Passepartout est curieux. J'aime bien.
Moi, j'aime ce roman parce qu'il y a beaucoup de suspense.
J'adore le livre, surtout quand Passepartout sauve Mrs. Aouda.
Voici notre coup de cœur est terminé. Découvrez l'œuvre fantastique de Jules Verne et le tour du monde en 80 jours.
C'est la fin du voyage et de l'émission Les Petites Voix of the World.
Merci à tous les journalistes qui ont participé à cette création.
Mais surtout, un grand merci à vous de nous avoir écoutés.
Bonne fin de journée, au revoir.
Les papotages des petites voix de la loi.